BFM Bourse, Techstox.
Tout un stock d'actions pour investir dans la tech, c'est Techstox. Chaque vendredi, pendant 27 minutes, on va vous apporter des idées de pépites et on tentera de faire de vous des insiders. No goat de la tech cette semaine. François Gobron est avec nous, General Investment. Bonjour François. Ravi de vous retrouver. Stéphane Houry est avec nous aussi, à distance, analyste tech pour Oddo BHF. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Welcome, bienvenue dans la team également. Ce sont nos deux goats de la tech. Dans un instant, vous nous livrerez plein d'idées, votre coup d'avance aussi pour la semaine à venir. Mais d'abord, on démarre toujours Techstox par les dernières actualités. C'est dans l'actu. Ça, c'est pour ceux qui ont raté la semaine dans l'actu. Qu'est-ce qui vous a l'un et l'autre, Stéphane et François, bluffé? On va démarrer, Stéphane, avec vous. Qu'est-ce qui, cette semaine, vous a le plus impressionné dans l'actu tech? Et il y a eu beaucoup d'actu tech.
Oui, il y a eu beaucoup d'actu tech, mais en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est les mouvements un peu contraires parmi les fabricants de smartphones. Je trouve que l'idée, c'est que Apple est en train de faire le break par rapport aux Chinois grâce à une bonne gestion de ses stocks de mémoire et une bonne stratégie d'approvisionnement. Bon, le premier point, c'est que il y a des rumeurs, des indications assez claires sur le fait que Apple est en train de préparer un cycle d'iPhone qui est assez fort, qu'il y aurait à peu près 5 iPhones qui seraient lancés entre le S2 de cette année et le S1 de l'année prochaine, que le groupe a demandé à ses fournisseurs de se préparer pour des volumes de 80 millions de nouveaux iPhones, le consensus était un peu en dessous, dont l'iPhone 18, et au moins 10 millions d'iPhones pliables, alors que les précédentes forecasts c'était 7 à 8 millions. Un peu plus tard dans la semaine, on a vu qu'Apple avait demandé au gouvernement américain d'acheter de la mémoire pour le chinois CXMT, et qui est un groupe qui est sur la liste noire du Pentagone. Et dans le même temps, on a des informations qui nous disent que les fabricants chinois souffrent et que Xiaomi, par exemple, a réduit son objectif à 95 millions de mobiles contre 135 précédemment et 170 millions l'année dernière. Donc il y a vraiment un croisement des courbes qui fait que Apple est en train vraiment de gagner de la part de marché grâce à sa bonne gestion des stocks de mémoire.
Oui, Apple est en train peu à peu d'avancer et là, mine de rien, sans coup férir, marquer quelques points, François.
Oui, alors moi, ce qui m'a surpris, c'est effectivement la capacité d'Apple à remonter ses prix pour compenser la hausse des prix des mémoires. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. L'autre chose qui m'a impressionné, c'est qu'on était en fin de semestre et on a pu regarder ce qui s'était passé au premier semestre. Tout le monde parle de Nvidia et quand on regarde la performance boursière de Nvidia, on n'est pas très impressionné. Hein. Nvidia, c'est plus 7% sur le premier semestre, alors même que quand on regarde les acteurs européens de l'industrie semi-conducteur, tous les équipementiers semi-conducteurs, que ce soit ASML, ASMI, on est quasiment à 100% de hausse. BSMI, on est plutôt à 180% de hausse. Et puis quand on regarde les très grands groupes mondiaux, je sais pas, Hynix par exemple, ça fait x4 hein, sur la partie mémoire. Donc on est quand même sur des performances boursières qui n'ont plus rien à voir avec ce que c'était l'année dernière, notamment entre Nvidia et les autres. Par ailleurs, ce qu'on a aussi vu, c'est que les logiciels et les SS2I, bon, c'est sociétés que j'aime beaucoup personnellement, mais c'est vrai qu'on a encore des baisses de l'ordre de 30% pour toutes les sociétés des éditeurs de logiciels.
Oui, et donc on a une forme de passage de relais, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer là en ce moment, bon, déjà avéré depuis maintenant quelques semaines, à savoir, ce ne sont plus les hyperscalers, ni les 7 magnifiques, dont on ne parle plus d'ailleurs, les 7 magnifiques en réalité, qui font la hausse, ce sont désormais les acteurs des semi-conducteurs, ASML, bas Nvidia, là, sur la période que vous venez de décrire, largement, SKNX, n'en parlons pas, c'est une véritable fusée, et pour vous, c'est, on va dire, un moment conjoncturel, ou c'est un moment structurel qui est en train de poser ses bases là, pour la suite.
Alors, ce qui est en train de se passer, c'est on l'a vu depuis plusieurs trimestres. En fait, on a vu d'abord l'argent, les flots aller des éditeurs de logiciels vers Nvidia, et maintenant ils vont de Nvidia vers les équipementiers semi. Oui. Donc c'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est un mouvement qui, à un moment, va s'arrêter. Hein. Comme je disais.
Et là, on peut se demander s'il commence pas déjà à s'arrêter parce qu'il y a eu quelques séances difficiles dans les semis là récemment.
Tout à fait. Il y a quand même beaucoup de nervosité dans les marchés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les investisseurs sont en train de chercher ce qui n'a pas encore trop monté par rapport au Nvidia et aux autres.
Stéphane, votre regard là-dessus sur... Alors oui, les semis battent désormais les 7 magnifiques. Oui, les semis pèsent de plus en plus dans les tendances de la tech. Mais on se demande quand va arriver la fin de l'ère des semis quoi, sur ce trend haussier. Est-ce que vous sentez qu'on arrive déjà à la fin là ?
Pas vraiment. Je pense qu'on est sur un cycle assez exceptionnel qu'on n'a jamais vu auparavant. 90% de croissance du marché des semis cette année. Probablement plus de 30% encore l'année prochaine. Donc en gros, c'est un cycle qui va durer jusqu'à au minimum 2028-2029. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on conseille, c'est d'être quand même un tout petit peu plus sélectif à ce niveau-là. Quand on regarde les primes des fabricants de semi-conducteurs type Infineon, STM en Europe, ou par rapport à leur moyenne 5 ans, on est sur une prime à peu près de 90 à 100% par rapport à la moyenne. Sur les équipementiers, on est sur une prime, les ASML, ASMI dont François parlait, on est sur une prime de 30 à 40%. Donc en fait, si on veut continuer à jouer le cycle, et je pense qu'il y a toutes les raisons de vouloir continuer, il faut focaliser sur les équipementiers qui ont non seulement une visibilité exceptionnelle, et je pense qu'on le verra sur la saison de publication, avec des valorisations qui sont élevées, mais pas extrêmes.
Oui, vous diriez qu'on n'est pas encore au bout. Et cette idée-là, vous la partagez, François, a priori, même s'il y a des respirations qu'on a vues sur le segment dont on est en train de parler. On n'est pas au bout de la hausse.
Oui, tout à fait. Et de toute façon, si on veut être exposé à l'intelligence artificielle aujourd'hui, la seule façon de le faire d'une façon, j'ose pas dire value, mais un petit peu value, c'est par les équipementiers semi-conducteurs.
Mais alors, il y a quand même aussi effectivement l'émergence de nouveaux acteurs, y compris des vieux acteurs qui émergent comme nouveaux acteurs. C'est vrai que Apple a un peu défrayé la chronique cette semaine, a demandé au gouvernement américain de pouvoir acheter la mémoire d'un groupe chinois plutôt que des mémoires de groupes coréens. Et Apple a annoncé avec Microsoft aussi, Stéphane, relever le prix de pas mal de ses produits. Vous dites c'est un sacré coup de force d'Apple. On aura la réponse là-dessus seulement quand le consommateur dira oui. Est-ce qu'on est certain que ça marchera ? Ou au contraire, est-ce qu'on risque à travers ces hausses de prix annoncées par Apple et Microsoft de voir les premières limites de l'IA et de son coût, son surcoût, le surcoût de l'approvisionnement en IA ?
Non, mais c'est surtout que bon, c'était à peu près anormal que Apple soit le dernier à résister aux hausses de prix. Tout le monde l'a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le cycle mémoire est tellement fort que les prix continuent de monter et que même Apple, en ayant fait des stocks, en allant chercher de la mémoire en Chine, pour s'ils ont l'autorisation, peuvent pas résister. Ça aura peut-être un peu d'impact sur les volumes. D'ailleurs, l'écosystème Apple a un peu baissé le jour même, mais bon, je suis pas sûr que ça fasse dérailler le cycle qu'ils sont en train de préparer.
Oui, mais ça nous montre aussi que les Chinois sont aussi sur ce marché, parce qu'on parle toujours des acteurs américains, français, coréens. Les Chinois existent aussi et Apple les a repérés.
Alors oui, ce qui est vraiment important, je pense, aujourd'hui, c'est d'avoir des acteurs qui ont du pricing power. Et clairement, Apple a du pricing power, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les acteurs chinois dont on parle là. Voilà. Donc c'est pour moi, et d'ailleurs c'est valable sur toute la chaîne de valeur, le pricing power, c'est vraiment l'élément clé, surtout quand on est dans des métiers extrêmement compétitifs.
Ce qui nous a aussi frappé, alors on va vous demander là-dessus de rebondir aussi l'un et l'autre, c'est quand même cette semaine que Meta envisage de vendre ses capacités de calcul de l'IA excédentaires, des capacités de calcul excédentaires. Est-ce que ça, c'est pas le signe que peut-être on commence du côté des hyperscalers, là c'est de Meta qu'il s'agit, à anticiper trop de capacités de calcul par rapport à la demande, et donc un premier plafond pour l'IA?
Oui. Simplement oui, je pense effectivement que peut-être que Meta a eu les yeux un peu plus gros que le ventre et que finalement on arrive à faire ce que Meta veut faire sans avoir le besoin de tous ces mégawatts de puissance de calcul. Et donc, outsourcer tout ça ou les offrir à l'extérieur, c'est quelque chose pour moi qui... c'est pas forcément... c'est peut-être un petit peu un aveu d'échec sur l'enthousiasme de l'IA.
Oui, Meta, quand vous avez vu passer cette info, Stéphane, vous vous êtes dit quoi? C'est le début, c'est le premier plafond pour l'IA?
Je suis pas forcément en opposition avec ce que dit François. C'est pas forcément un bon signal de prime abord. Après, c'est aussi le signe d'une industrie qui est en train de s'organiser. Et c'est peut-être aussi pour Meta une façon de faire pas mal d'argent, parce qu'en fait, revendre de la capacité, vu la rareté de cette capacité, aujourd'hui, malgré tout, parce qu'on est dans un marché de rareté, c'est aussi une stratégie qui est plutôt intelligente, je trouve.
Vous nous direz l'un et l'autre quoi suivre la semaine prochaine. Le coup d'avance, c'est l'une des promesses de Techstox. Mais d'abord, ce dont on vient de parler est presque encore un peu trop mainstream. Techstox, c'est aussi le moment où on échange dans le secret de la tech. Vous nous livrez, messieurs, vos indiscrets. Pouvez-vous faire de nous des insiders, s'il vous plaît? Livrez-nous des secrets sous les radars. Ouais. Sous les radars que tout le monde a. Une annonce dans la tech peut-être passée inaperçue, ou une rencontre que vous avez eue, une discussion informelle que vous auriez eue récemment et que vous pourriez partager avec nos auditeurs et téléspectateurs. François, sous les radars, faites de nous des insiders.
Donc, hier soir, en fait, j'ai dîné avec Octave Klaba. Octave Klaba, c'est le fondateur de OVH, ouais, qui est donc un acteur des data centers en Europe, un des plus grands. Et ça rejoint ce que disait Stéphane précédemment. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ces actifs sont des actifs extrêmement rares. C'est très difficile de pouvoir créer un nouveau data center en France, par exemple. Personne ne veut d'avoir de data center. Il n'y a pas de mètre carré disponible pour les data centers. On a de l'énergie pas chère, mais pas des mètres carrés. En Allemagne, c'est l'inverse. Il y a peu d'électricité peu chère, l'électricité est très chère, et il y a des mètres carrés. Donc en fait, on a beaucoup de mal à trouver des endroits où faire des data centers. Et en fait, ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, c'est que OVH a 100 mégawatts de disponibles pour faire de l'IA. 100 mégawatts, l'ordre de grandeur, c'est 1 mégawatt, ça fait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, encore les ordres de grandeur, c'est OVH, c'est un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Donc ils ont la capacité de doubler leur chiffre d'affaires à faire de l'IA. La vraie question, la seule question, c'est combien de temps ça va prendre. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de mettre des GPU dans leur ferme de calcul, là où avant ils mettaient des serveurs normaux. Et ça va permettre en fait de mettre des applications à beaucoup plus forte valeur ajoutée dans leurs data centers.
Hey. Et vous l'avez trouvé très optimiste justement sur l'avenir d'un groupe comme OVH avec des besoins de souveraineté accrus, effectivement, essayer de moins dépendre des acteurs américains du secteur, surtout avec l'administration Trump qui nous réveille là-dessus, nous Européens.
On a eu un électrochoc, il faut le dire, la semaine dernière, ou plutôt il y a 15 jours, avec le modèle Fable 5 et d'Anthropic qui a été coupé à tout le monde. Et Octave, hier, reprenait ça avec VMware en expliquant qu'il y a quelques années, en fait, VMware avait multiplié par un facteur assez important le prix de ses licences et que les gens avaient été obligés, un peu rackettés par VMware, de continuer de travailler avec eux. Et donc aujourd'hui, la promesse d'OVH, c'est d'abord les datas sont souveraines parce qu'elles sont stockées en France. Ensuite, les infrastructures sont aussi souveraines puisque la technologie va être de la technologie développée par OVH directement ou par des acteurs européens. Et donc, on a vraiment là complètement la propriété des données.
Stéphane, vous, qu'est-ce qui, dans l'univers de la tech, mériterait d'être partagé auprès de nos auditeurs et téléspectateurs, même des infos qu'on vous a données, vous n'avez pas le droit de partager, sauf avec nos auditeurs et téléspectateurs. N'hésitez pas à faire de nous des insiders, Stéphane.
Bien entendu. Alors moi, j'ai pas des dîners aussi mondains que ceux de François, mais par contre, j'ai visité la nouvelle usine qui a été inaugurée cette semaine d'Infineon à Dresde, usine Smart Power, qui est une usine qui a coûté 5 milliards d'euros et qui est extrêmement importante en termes de souveraineté européenne pour participer à l'IA. C'est une usine qui est assez unique en Europe et qui devrait lui permettre de capter pas mal de croissance sur les data centers dans lesquels on a besoin de pas mal de puces de power management pour gérer toute cette puissance, puisque en fait l'énergie est vraiment un gros sujet sur les data centers. C'est important pour eux d'avoir la capacité disponible pour capter cette croissance avant que le marché ne se commoditise avec l'éventuelle arrivée d'acteurs chinois sur ce marché. Mais c'était vraiment une visite assez impressionnante et qui montre bien que finalement l'Europe a quelque chose à jouer dans l'IA, dans la photonique. On parle beaucoup de photonique, mais là en l'occurrence c'est dans le power management. Et pour revenir sur la discussion de tout à l'heure sur Nvidia, en fait aujourd'hui il y a énormément de voies, énormément de moyens de jouer l'IA et pas de se focaliser sur Nvidia qui sous-performe et encore moins sur les hyperscalers qui sont ceux qui prennent le risque, ouais, et qui sous-performent énormément. Donc j'ai trouvé cette visite à Dresde intéressante.
François.
La vraie question, en fait, sur les hyperscalers, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour rentabiliser leur capex. Et ce que j'ai vu avec OVH également hier, c'est que en fait, ils ont le moyen de monter les prix parce que le client est assez captif, en fait. Donc il y a pas ce problème-là. Le deuxième point qui est très important, c'est que OVH nous disait, on n'a aucun problème à acheter des GPU. On n'a aucun problème. Nvidia nous livre très rapidement. C'est plus un goulet d'étranglement. Le problème, ça va être d'installer les GPU dans des serveurs. Et là, c'est vrai que quand on est un petit cluster, ça, c'est assez facile. Quand on a des grands clusters de 10 000 cartes graphiques, là, il y a beaucoup de problèmes.
Intéressant, vous indiquerez à l'un et à l'autre. Mais TechStock, c'est pour passer à l'action là, dès lundi. Dès la semaine prochaine, il faut agir quand on investit dans la tech en bourse. Ceux qui agissent aujourd'hui font les standards de demain. Alors, on passe à l'action, les amis.
Et François, on va commencer par solder un vieux débat parce qu'il y a souvent confusion. ASMI et ASML. Bon, ASML, on commence à un petit peu à regarder. C'est la lithographie sur puce. ASMI, ça, en revanche, c'est votre pépite.
Alors, ASMI, les deux sont très très bien. C'est deux
oui,
sociétés
oui, oui.
Vraiment qui sont très complémentaires.
Néerlandais tous les deux, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire.
Oui. Pour simplifier, peut-être ASML va écrire sur des feuilles de silicium et ASMI va plutôt faire des espèces de sandwich. Hein. Mm. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans
Votre pépite, ASMI, en l'occurrence.
Oui,
hein.
Oui.
Vous l'adorez, cette valeur.
Oui, je l'aime bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que ASMI va en fait faire deux choses. Ils vont faire, techniquement, ça s'appelle de l'ALD et de l'épitaxie. L'épitaxie, ça va être, on va faire un sandwich de couches de différents matériaux et après, on va aller graver dessus. Donc, et on va déposer des petits matériaux sur, on va doper, en fait, les nanosheets qui sont faites par ASMI. Donc, c'est un procédé qu'on connaît depuis assez longtemps, mais il n'y avait pas vraiment de débouché. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la mémoire HBM et qui va nécessiter d'empiler les couches. Pour reprendre une analogie de tous les jours, une ville, en fait, quand il n'y a plus de place, on commence à construire des immeubles, on fait ça en 3D, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, et ça nécessite deux technologies qui sont l'épitaxy et l'ALD. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel ASMI est très fort. C'est pas ils sont leaders, mais c'est pas vraiment comme ASML où il y a personne, il y a pas de concurrence. Là, il y a de la concurrence, un petit peu moins, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on a une croissance qui devrait être le double de celle d'ASML sur la partie mémoire, hein, juste sur cette partie-là.
Stéphane, avec vous, on passe à votre pépite. Il s'agit encore d'un équipementier autour des semi-conducteurs, mais archi pointu et français.
Oui, tout à fait. Alors, chez Odo BHF, on a initié cette semaine la couverture de Semco, qui est une société française qui a été introduite l'année dernière, qui a plus que doublé, qui fait 500 millions de market cap. Et qui fait des parties d'équipements, c'est des chucks électrostatiques, c'est des disques en céramique qui sont équipés d'électrodes qui permettent d'assurer la stabilité, la pureté, le contrôle thermique des wafers pendant le processus de fabrication des semi-conducteurs. Alors évidemment, c'est tiré par le cycle actuel des semi-conducteurs et donc des équipementiers. Ils ont des gros équipementiers parmi leurs clients, les principaux mondiaux, et la dynamique qu'on a constatée sur les dernières années, à savoir plus de 20% de croissance, devrait se maintenir. Donc ça, c'est un dossier qu'on aime bien, 30% de potentiel à court terme.
Oui, Semco, donc. Alors on va regarder aussi le potentiel technique de tout ce dont vous nous parlez, parce que vous apportez beaucoup d'arguments fondamentaux, mais en bourse, si on investit dans la bonne valeur au mauvais moment, c'est pas bien. Le timing et l'analyse graphique, ça compte. C'est le Trade Tech, notre trader, donc, pour vous apporter en termes graphiques les meilleurs timings d'investissement, la hausse ou la baisse. Valentin Nico, Bourse Direct. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume.
Vous allez nous dire ce qui relève de la tech tonique, donc la tech à fort potentiel encore, puis la tech en toc, celle qui risque de s'essouffler un peu. On va démarrer par le Nasdaq qui, hier, a reculé de plus d'1%, alors que le Dow Jones, lui, montait sur des records, hein, un vrai record hier du Dow Jones, tandis que le Nasdaq souffrait. Est-ce que le Nasdaq devient de la tech en toc pour vous?
Alors, tech en toc, quand même pas, mais on arrive sur des zones assez de résistance, tout simplement. Notamment sur le canal haussier dont on parle régulièrement. Et là, on s'en dégage progressivement et on est en train de faire une phase de correction qui se met en place progressivement. Donc, on évoquait, nous, la rotation sectorielle de tout ce qui tourne autour de l'IA. Donc, on est en train de prendre des bénéfices sur ça et on serait plus à l'aise de payer le marché avec une correction de 10% par là. Voilà. Et donc voilà, on serait plus à l'aise avec un retour sur les 27 000 points. Après, il y a quelques dossiers qui risquent de résister, mais voilà.
Valentin, une tech tonique, une valeur qui a du potentiel à la hausse. Qu'est-ce que vous avez choisi cette semaine?
Alors, on a Microsoft qui a fait une très belle semaine, qui fait un double bottom là en cours, qui est à $390 et on vise 450 à moyen terme. Donc très belle figure graphique, enfin configuration graphique. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait, donc voilà, on la surveille attentivement.
Ah oui, je crois qu'il y a à peu près toute la place boursière qui l'attendait. C'est vraiment la valeur qui est citée en gestion value pour une éventuelle reprise. En revanche, une valeur dont il faut se méfier, où il y a des signaux pas très encourageants.
On reste sur le semi-conducteur, donc l'AIZ au process de fabrication. C'est KLA Corporation qui a fait une très mauvaise séance hier, -11%. Et on pense qu'il y a pas mal de place encore. On est à 235 et on viserait 175 à moyen terme, pareil.
Valentin, Nico, et ces quelques idées, ces ressorts graphiques, techniques pour vous aider à trouver le meilleur timing, vous qui nous suivez régulièrement dans Tech Stocks. Merci beaucoup, Valentin, et vos équipes chez Bourse Direct. La tech en a un petit peu marre parfois. Qu'on parle d'elle à sa place. Dans Tech Stocks, la tech prend le pouvoir et vous pose, François, Stéphane, Antoine, la question. Ouais. C'est quand l'IA vous pose sa propre question, effectivement, on inverse les rôles dans ce rendez-vous et on lui demande de vous poser sa question. C'est Gemini qu'on interroge. Êtes-vous prêts, François et Stéphane, à répondre à cette question de Gemini?
Oui, tout à fait.
Ils sont prêts? Bon, alors on y va. Vous êtes sûrs? Quelle place européenne aura le plus de valeur tech de pointe et adulée par les investisseurs d'ici 5 ans d'après vous? Quelle sera la place européenne tech, François?
Je peux dire que Paris, évidemment. Enfin, on peut pas dire autre chose. Donc, on aura effectivement une très très belle place aux Pays-Bas avec deux ou trois valeurs qui sont hollandaises. Mais les futures pépites, ça pourrait être Mistral si un jour va en bourse, ça pourrait être STM si un jour fait de meilleures choses qu'aujourd'hui. Voilà.
Ouais, Antoine.
Mistral, évidemment, parce qu'ils se coteront à Paris.
Oui, forcément.
Forcément.
Évidemment. Donc pour vous, non mais c'est pas un choix par défaut, c'est vous pensez que si un jour une place technologique émergeait en Europe, ce serait Paris. Aujourd'hui, c'est plutôt Amsterdam. Enfin, on va quand même dire les choses, ASML, ASMI, vous disiez j'aime bien ASMI, c'est à Amsterdam que ça se passe.
L'ordinateur quantique aujourd'hui, c'est en France. Mistral, c'est en France. Donc on a quand même quelques cartouches pour avoir de belles sociétés cotées en France.
D'accord, mais il y a des acteurs qui restent en France, voilà, et qui viennent s'imaginer de ce côté en France.
Il faut que le gouvernement fasse ce qu'il faut pour qu'il puisse se développer correctement.
Oui, oui. Aujourd'hui, l'Europe, toujours un nain face à Wall Street, face à la Corée du Sud, même d'un point de vue technologique, où finalement vous sentez quand même qu'on est en train d'avancer, de prendre notre place, quoi, de commencer à exister sur la carte mondiale de la tech. Je mets à part ASML, parce que oui, bien sûr, ASML est indispensable à l'IA, à la tech, mais ASML n'est pas coté au-delà des 1000 milliards, on est largement sous la barre des 1000, donc on se dit, oh, est-ce qu'on n'est pas déjà à notre plafond? Alors voilà, est-ce que l'Europe est à son plafond ou la voyez au contraire émerger et sortir du lot?
C'est une question difficile. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de petites sociétés dans les PME qui sont indispensables au fonctionnement de l'industrie des semi-conducteurs. Semco, c'est un très bon exemple. Semco, ils sont pas leaders, ils sont en situation de monopole sur les heat shock dans l'industrie des semis. C'est tout. Il y a que. Donc, on n'a pas le choix, il faut passer par eux. Leur marché, il est relativement petit, donc la capitalisation fait 500 millions. Ça reste une petite société, mais c'est une très belle société. Et on en a plein comme ça en France, en Europe en général, en Italie également. Donc, on a tout un écosystème de petites sociétés, et il faut les protéger, il faut qu'elles puissent se développer, qu'elles puissent se consolider, sans qu'il y ait...
Il faut avancer dans la mise en œuvre du rapport Draghi, ça pourrait aider par exemple, marché de capitaux aussi, pour trouver des financements.
Et puis il faut les protéger.
Oui, oui. Et puis quand elles s'introduisent en bourse, si Mistral un jour s'introduit en bourse et à la Bourse de Paris, ouvrir tout de suite aux particuliers. Hein. SpaceX tout de suite était ouvert aux particuliers, alors qu'en France, il est rare de voir une IPO immédiatement ouverte aux particuliers. Si on veut attirer les capitaux européens, il faut bien l'ouvrir aux particuliers le plus tôt possible.
Le problème des particuliers, c'est un problème un peu différent, c'est que les particuliers européens sont très risk-averse, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc il y a d'abord une éducation, je pense, financière à faire auprès des particuliers pour leur dire que no pain, no gain. C'est-à-dire que si on met pas un peu d'argent sur la table risqué, eh ben on ne va pas gagner beaucoup d'argent.
Stéphane, donc je vous rappelle la question que vous pose Gemini. Quelle place européenne, Stéphane, aura le plus de valeur tech en pointe dans 5 ans?
J'aurais bien aimé dire la France, mais je pense que vu la croissance qu'on va avoir sur le marché des semis, sur le marché des équipements, je pense que les Pays-Bas, Amsterdam va garder sa première place. C'est vrai qu'on a quelques belles sociétés en France. François parlait d'ST Micro. Alors ils sont dans une bonne phase. On verra si ça continue. Moi je pense que oui. Des gens comme Soitec, Semco ont tous quelque chose à jouer. Après, historiquement, et c'est là où je suis un tout petit peu plus en retrait, les sociétés françaises de technologie ont su développer des produits un tout petit peu moins, s'imposer au niveau mondial et les vendre. Et c'est ça qui a fait défaut à pas mal de petites sociétés tech par le passé. Donc, bon, très, très simplement, pour répondre à la question, je pense qu'effectivement, avec ASML, ASMI, Besi et d'autres, on voit pas mal de petites sociétés éclore aux Pays-Bas dans le domaine de la photonique, par exemple. Je pense qu'ils vont garder le lead.
La semaine prochaine, on adore apporter un coup d'avance à nos auditeurs. Stéphane, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous regarderez particulièrement dans la tech? Quels seront les enjeux?
Alors, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ah. C'est une des rares semaines où, d'après moi, il va pas se passer grand-chose. Bon, alors il suffit de dire ça pour qu'il se passe énormément de choses. Mais les publications de résultats commencent la semaine d'après avec Ericsson le 14 juillet. C'est sympathique de nous mettre cette publication ce jour-là. ASML le 15 juillet, TSMC le 16. Donc les sociétés sont en quiet période, donc normalement ça va être très très calme. On va guetter un peu les signaux qu'on a sur le marché, sur la santé des investissements dans l'IA, mais ça va être une semaine de transition vers une saison des publications qui s'annonce chargée.
François, vous avez trouvé d'autres repères à surveiller la semaine prochaine?
Oui, alors c'est une semaine qui est un petit peu creuse parce que les résultats tombent effectivement dans la deuxième quinzaine de juillet. Mais il y a une chose, un événement qui va se passer, c'est SpaceX qui va être intégré au Nasdaq.
Ah oui, mardi.
Ça veut dire quoi? Je crois que c'est mardi, oui. Ça veut dire qu'en fait, tous les ETF vont d'une seule même voix acheter 1% de SpaceX parce qu'il y a 1%, on estime que ce sera 1%, dans le Nasdaq.
Ça n'a pas déjà été fait. Ça ne pourra se faire qu'à partir de mardi.
Ça se fait mardi. Et donc, ça veut dire des flux entrants de 4 à 5 milliards sur SpaceX. On verra bien si ça suffit à soutenir le cours. On verra bien l'évolution du cours de SpaceX. Parce que derrière, en fait, il y a ce gros point d'interrogation. Il y a Anthropic et OpenAI qui se disent, nous, on va faire une IPO, mais si jamais ça, SpaceX, on voit que ça fait flop, on va pas y aller. Hein.
Hey, c'est aussi un enjeu pour les IPO suivantes. Oui, oui.
Exactement. Donc,
comment les choses vont passer?
C'est vraiment quelque chose qui va marquer la deuxième partie de l'année.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir apporté ce coup d'avance, de nous avoir alerté sur les meilleurs potentiels au sein de l'univers de la tech. François Gobron pour Generali Investment, dont c'était la première dans Tech Stocks, pas la dernière. Merci François de nous avoir retrouvés. Et Stéphane Houry, maintenant c'est un habitué, c'est un abonné. Stéphane, merci à vous depuis les bureaux Dodo BHF. Bonne fin d'après-midi, bon week-end à tous les deux.